الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يمدن بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شافر عن الإسلام nous continuons avec le hadith de Jibril عليه السلام qui était venu voir notre prophète Mohammed Mustafa alayhi salat wa salam ainsi que ses compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in pour leur faire un rappel concernant les piliers de la foi et les piliers de l'islam. Et nous avions développé il y a quelques semaines un point cité par l'ange Jibril alayhi salam concernant les six piliers de la foi, le fait de croire en l'au-delà. Et on avait expliqué la situation des croyants, la situation des personnes les plus honorées par Allah Azza wa Jal le jour de Qiyam, c'est-à-dire les gens qui seront appelés, qui auront cet honneur d'être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour des comptes. Et de cette façon, les ulama, ils expliquent que ce jour, ce sera certainement le jour le plus terrible qu'aura connu l'humanité. J'allais dire la race humaine, mais non, c'est bien au-delà de ça, l'humanité. Le jour le plus terrible qu'aura connu l'humanité. Mais malgré ces moments de difficulté, ces moments de stress intense, ces moments terribles où certaines personnes vont voir d'autres parmi leurs proches jetés dans l'enfer avant même que les hisab commencent. Donc dans ces moments de chaos, comme on l'avait expliqué, c'est vraiment un moment de chaos indescriptible, il y aura des personnes qui auront la tranquillité du cœur. Et à différentes étapes, nous allons voir les personnes qui auront la tranquillité du cœur. La première étape où une personne se sentira apaisée, c'est quand la personne sera appelée sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour de Qiyam. Et on avait développé, de façon assez concise, les sept catégories de personnes qui auront cet honneur le jour de la résurrection. Alors, parmi les autres étapes de l'au-delà, parce que ça ne se limite pas à ça, bien sûr, parmi les autres points que chaque croyant se doit de comprendre et de réaliser, concernant le jour de Qiyama, il y a une étape qui s'appelle Nashrud Dawawin. Ad-Dawawin, ça vient de Diwan, c'est les livrets de compte. Pour faire simple, c'est lorsque les Sahahif al-A'mal, ça c'est un terme plus connu, les Sahahif al-A'mal seront remis à chaque être humain le jour de Qiyama. Alors, ce sont des étapes que nous avons tous déjà entendues. Mais il n'y a rien de nouveau. Soit on a appris quand on était avec des fundis ou on était à la madrasa, ou alors on a entendu dans des assemblées religieuses, ou alors ce sont des choses que normalement tout croyant connaît. Il n'y a pas une personne qui n'est pas au courant, qui n'est pas conscient, d'accord? Mais là, il y a une étape, là on passe un cap là quand on dit être conscient. Il n'y a pas une personne qui ignore le fait que Allah Azza wa Jal a créé des anges qui inscrivent les péchés et les bonnes actions. Et ces anges qui sont à la droite et à la gauche de l'être humain inscrivent les actions que chaque homme accomplit, bonnes comme mauvaises. D'où le verset « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ » Ce sont des anges qui sont assis. « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ » À chaque fois que l'homme prononce une parole, en ce sens, il y a des anges qui sont là, qui sont présents pour inscrire. Donc ça, c'est des choses connues. On va dire que on pensait qu'on allait apprendre des choses nouvelles. C'est des choses connues. Mais maintenant, par rapport à cette connaissance qui est commune à tout le monde, chaque personne ici connaît qu'il y a des anges qui inscrivent les actions. Maintenant, nous, où est-ce qu'on va en venir, nous, dans cette compréhension? Parce qu'il y a la compréhension basique de la religion, d'accord? Et puis, il y a le musulman qui est un peu plus intelligent, qui se fait plus de soucis pour son iman, qui se fait du souci pour avoir la réalité de la foi et qui se rend compte que, en finalité, là, dans mon cœur, je n'ai pas la réalité du iman. Je pratique une religion très superficielle où je réponds présent quand tout le monde est là et quand il y a la moindre tentation, ben malheureusement, je me dévie du droit chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se faire du souci pour sa foi. Ça, c'est très important. Et celui qui se fait du souci pour son iman, qui se pose vraiment des questions, est-ce que ma foi, c'est le niveau de iman qu'Allah attend de chaque musulman? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de différence entre mes actions et les actions des pieux prédécesseurs, des sahaba? Pourquoi est-ce que face au péché, j'arrive pas tout le temps à dire non? Pourquoi est-ce que quand il faut faire de bonnes œuvres, il y a des fois où j'arrive et des fois je n'y arrive pas? C'est-à-dire pourquoi je n'ai pas une foi qui augmente de jour en jour? Pourquoi est-ce que dans les moments de difficulté, je ne trouve pas les ressources nécessaires pour m'en sortir, pour comprendre les épreuves, pour les intégrer, pour passer un cap, pour augmenter de grade, pour avoir plus de confiance en Allah? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas
réellement mon parcours spirituel, pourquoi est-ce que je ne me rapproche pas d'Allah Azza wa Jal jour après jour, comme ça doit être normalement le cas des musulmans. Comment est-ce que ça se fait qu'un sahaba, radiallahu anhu, lorsqu'il embrasse l'islam quelques jours après, il devient le meilleur des hommes? Il embrasse l'islam, on va dire, un jeudi, dans deux jours, trois jours, avec ses relations avec le prophète alayhi salatu wa salam, avec les choses qu'il entend, avec sa façon de pratiquer le din, il devient un exemple déjà pour l'humanité, il devient comme une étoile qu'on doit prendre comme modèle. Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils avaient atteint ce degré, et moi, je pratique depuis 15 ans, 20 ans, je sens que je n'avance pas réellement. Alors, si on se pose ces bonnes questions, si on se pose ces questions, c'est qu'alhamdoulilah, on se pose les bonnes questions. Et là, ça veut dire qu'on se fait du souci pour la foi. Celui qui se fait du souci pour son iman, il va essayer de trouver les solutions. Donc, les solutions sont à portée de main. C'est-à-dire, ces connaissances de base qu'on a tous appris, qu'on a développées, qu'on connaît de façon basique, on va dire, d'accord ? Il faut maintenant essayer de les creuser pour essayer de trouver la réalité. Et quand on a compris la réalité de ce khabar, de cette information, on doit essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'Allah a révélé la description de cette étape. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas pour effrayer les gens. Ce n'est pas pour qu'on raconte des histoires. Dans notre religion, on n'a pas besoin de raconter des contes ou des histoires pour faire peur ou pour faire rire. Non. C'est que si Allah Rabbul Izzah révèle cette description de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien sûr pour qu'il l'informe la Ummah, pour qu'il explique aux musulmans, attention, le jour de Qiyama, ça va se passer comme ça. Quand on dit « Nashru Sahaif », c'est-à-dire vos livrets d'action, nos livrets d'action à nous. Et quand on dit que les livrets d'action seront remis, c'est comme si qu'on dit que les copies sont remis. C'est comme si que le résultat, c'est celui qui a passé un examen, il reçoit dans une enveloppe le résultat de son examen et il va l'ouvrir. Il y a des milliers de personnes qui attendent pour voir qu'est-ce qu'il a eu comme résultat. Est-ce qu'il a réussi ou il a raté? Il nous a toujours fait croire qu'il était un excellent étudiant, qu'il était le meilleur, et peut-être que dans le fond, il ne s'y connaît rien, c'était le pire parmi. Bref, c'est-à-dire que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam explique aux croyants que le jour de Qiyama, les livrets de comptes seront remis de cette façon, en commentant les différents versets qui parlent des livrets de comptes qui seront remis, l'objectif, c'est que le croyant réalise que les livrets qui me seront remis, ce sont les livrets que j'aurai moi-même remplis dans ce dunya. C'est ça la relation qu'il faut faire. C'est pas qu'un jour de Qiyama, on donne des livrets au hasard. Toi, tu as livré, tu as eu quoi de te livrer paradis, mashallah, félicitations. Toi, tu as eu quoi, jahannam, t'as pas de chance. C'est pas comme ça. C'est pas non plus qu'Allah est tellement clément que tous ceux qui ont la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans leur cœur, ils reçoivent un livret d'action où c'est écrit, tout est ok, allez au paradis. Ça se passe pas comme ça. Parce que dans d'autres hadiths, il est décrit qu'il y aura des gens qui iront dans l'enfer. Il y aura des ahlut tawhid, des gens qui auront la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans leur cœur, qui auront prié, qui auront jeûné, qui auront fait le hajj, le pèlerinage, et ainsi de suite. Mais à cause des péchés qu'ils auront accomplis, ils auront dans les jahannam. Et à un moment donné, le prophète alayhi salatu wa salam demandera à Allah la possibilité d'intercéder, ce qu'on appelle en arabe al-shafa'a, d'intercéder pour les retirer de l'enfer. Ce hadith-là, c'est un hadith qui nous fait réfléchir quand le prophète dit qu'il ira chercher les derniers croyants de l'enfer. C'est-à-dire, après que le hisab soit terminé. C'est-à-dire, combien de milliers d'années ce mu'min est en train de brûler dans le jahannam, sallallahu alayhi wa sallam, dit lorsque le prophète les retire de l'enfer, ces gens sont complètement brûlés, carbonisés par le jahannam. Ce sont des gens qui peut-être faisaient leur salat à côté de vous dans la masjid, Qubbatul Islam, le Saint-Clotilde, ou dans tel endroit. C'est des gens qui auront iman. Les hadiths décrivent de manière très explicite que seront des gens comme vous et moi, à cause de leur péché, ils ont été dans l'enfer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les retirer. Donc, ce genre de hadith nous fait réaliser que le jour de Qiyama, tout ne sera pas rose. Il ne faut pas croire que eux, ils ont adoré d'autres qu'Allah, donc eux, ils vont aller dans le Jahannam, et nous, c'est sûr qu'on est dans le Jannah. Sûr que celui qui a la ilaha illallah dans son cœur ne restera jamais éternellement dans l'enfer. Ça, c'est hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est la promesse d'Allah. Maintenant, combien de temps cette personne va passer dans l'enfer pour purger ses péchés, ça c'est Allah seul qui connaît. Mais en fait, il faut éviter même cette étape. Il faut éviter même cette angoisse, ce stress. Donc, quand je réalise que les livrets qui me seront remis le jour de Qiyama, ce sont les livrets que j'aurai moi-même remplis par mes actions, par mes choix, par mes décisions. Et ce ne sont pas des livrets qu'on remplit uniquement durant le mois de Ramadan, ça. Non. Ce ne sont pas les livrets de Ramadan où il y a une page Ramadan 2002, 2003, 2004 jusqu'à 2051. Non, c'est les livrets, c'est tous les jours il y a une page, on pourrait dire. Chaque instant, chaque moment de la vie, chaque fois que vous êtes exposé à une situation où vous pouvez faire une bonne action ou faire un péché, cette situation elle est inscrite dans le livret et votre décision elle est inscrite dans le livret. Et c'est exactement ça qui vous sera, qui nous sera donc présenté le jour de Qiyam. Donc les savants disent que ce mu'min qui est intelligent, qui va au-delà de ce qu'il sait, qui essaie de réaliser, de prendre conscience, afin qu'il y ait un résultat, quand il y a prise de conscience, il y aura une action. Après réflexion, il y aura la réaction. La réaction du croyant, ce sera quoi maintenant? Quand il prend conscience que chaque fois que je dis quelque chose, c'est inscrit dans mon livret. Chaque fois que je fais quelque chose, c'est inscrit dans mon livret. Chaque pas que je fais, c'est inscrit dans mon livret d'action. De cette façon, le croyant va réfléchir avant de parler, avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision. Avant de prendre une décision parce qu'il sait que c'est peut-être cette décision-là qui fera pencher sa balance du mauvais côté le jour de Qiyam. Et c'est peut-être ce péché-là qu'il va retrouver dans son livret de compte et qu'il souhaiterait le jour de Qiyam qu'il n'ait jamais accompli ce péché. Il y a un verset. Subhanallah, yawma tajidu kullu nafsi ma'amilat min khayrin muhdara. Le jour où chaque personne retrouvera ses bonnes actions, ce sens. Mais également, wa ma'amilat min su'e. Mais également ce qu'il a fait comme mauvaise action. Ça aurait été trop bien si le jour de Qiyama, on voit que les bonnes actions de notre livret. Ben non, c'est pas comme ça. Ça, c'est la justice d'Allah, adl. Wa ma amilat min su'. Ce qu'on a fait comme mauvaise action aussi, on le retrouve dans le livret. Et quelle est la réaction de cette. Quel est le tamanna, le souhait de cette personne à ce moment-là? Tawaddu law anna baynaha wa baynahu. À Madame Baïda, en ce sens, il aurait souhaité qu'il y ait une grande distance entre lui et ce péché. Alors que dans ce monde, il recherche ce péché. Il veut faire. Il l'aime parce qu'il trouve un plaisir dedans. Mais le jour de Qiyama, il aurait souhaité que ce péché-là soit éloigné de lui complètement. Qu'il n'aurait jamais même connu ce péché dans ce monde. Ça, c'est le croyant qui prend conscience maintenant des conséquences des péchés, mais quand il est déjà trop tard. Parce que quand les actions sont déjà visibles de le livrer, là c'est trop tard. Donc le musulman intelligent, il essaie d'avoir cette réaction, cette prise de conscience maintenant. Et non pas attendre le jour de Qiyama pour comprendre qu'il aurait été mieux que ce péché-là soit éloigné de moi. J'aurais tellement aimé ne pas connaître cette jeune fille et ne pas faire le zina, l'adultère avec elle. J'aurais tellement aimé ne pas écouter telle chose haram, ne pas regarder telle chose haram, ne pas manger, consommer les telles choses haram de ce monde. Mais quand on se rend compte qu'on a été dans l'erreur, c'est qu'il est déjà trop tard, c'est que c'est le Qiyam. Le musulman, le croyant intelligent, lorsqu'il prend conscience que le jour de Qiyam, il y a une étape où on remet les livrets d'actions qui sont propres à chaque croyant par rapport à son parcours, par rapport à ses actions de ce dunya, alors là, on prend conscience, on se dit que je dois faire attention à la moindre parole, au moindre fait et geste. En commentaire du verset qu'on a cité, le Mufassirin disent « Katibul hasanat alal yamin » celui qui inscrit les bonnes actions reste à droite du croyant. « Wa katibul sayyati alal shimal » et celui qui inscrit les péchés reste à gauche du croyant. « Fayaktubani » et ils écrivent tout ce que la personne peut dire, tout ce que la personne peut faire. Je pense qu'on avait cité cet exemple une fois, selon Imam Ahmed Ibn Hanbal rahimahullah, dit même quand une personne se plaint, quand quelqu'un est malade et qu'il pousse des gémissements de douleur, dit même ça les anges écrivent parce qu'ils ont l'ordre d'écrire tout ce qui sort, tout son qui sort de la bouche de l'homme. Et le jour de Qiyama, ces paroles qui seront neutres, pas une parole positive ni négative, seront enlevées du livret des comptes pour laisser uniquement les bonnes paroles et les mauvaises paroles. Pour qu'on réalise que vraiment, il n'y a pas une parole, ni un fait, ni un geste qui est laissé au hasard, qui n'est pas inscrit par les malaïka. Autre verset de la sourate Ibn Israël, « Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi ». Autre verset, là c'est, on y est directement, lorsque le livret sera remis à l'homme, et Allah Azza wa Jalla lui demandera, « Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba ». Allah Azza wa Jalla demandera à chaque personne de lire lui-même son livret d'action parce qu'il est lui-même son propre juge. Pour que la personne réalise que tout ce qui est écrit de ce livret d'action, c'est réellement ce que j'avais accompli comme bonne action ou mauvaise action dans ce dunya, dans ce monde. Et lorsqu'on parle de remise des livrets, il y a deux choses. Il y a le contenu et il y a la façon de le prendre, la façon de le recevoir. Ça aussi, c'est des choses qu'on connaît. Il y a pas mal de versets du Coran qui parlent de ceux qui reçoivent le livret dans la main droite et ceux qui reçoivent de la main gauche derrière le dos. C'est des versets que nous connaissons, que nous mémorisons, que nous entendons régulièrement de dire cela. Mais les muhaddithins expliquent que ce qui est important, c'est d'aller au-delà de ce qu'on a appris. C'est de réaliser que, en fonction de mes choix, je décide comment je veux recevoir mon livret d'action le jour de Qiyam. C'est pas Shaitan qui me pousse. C'est pas les fitnas qui me poussent. C'est pas les ennemis de l'islam qui me poussent. C'est pas Dajjal qui me pousse. C'est moi-même qui décide. C'est moi-même qui décide quelle action j'accomplis. Donc, comment est-ce que je remplis mon livret d'action? Et donc, quel contenu je vais voir le jour de Qiyama, quand le livret me sera remis? Et de quelle façon je vais recevoir ce livret d'action le jour de Qiyama? Et ça, ça interpelle l'homme. Ça nous permet de faire notre propre bilan. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique à notre din. Quand je fais mon bilan, je me rends compte qu'il y a des manquements, il y a des erreurs. Je n'ai pas besoin d'aller voir un imam ou un fundi ou un mufti pour dire, voilà, j'ai fait tel péché, j'ai besoin de me confesser. On n'a pas besoin d'aller voir un homme pour se confesser. Quand on a fait des erreurs, on s'oriente vers Allah. On lève les mains et on implore le pardon d'Allah et on demande à Allah, donc, Tawbatun Nasuha, et la possibilité de revenir et de ne plus recommencer ses péchés et de prendre donc un nouveau départ. Donc ce bilan-là, il est important que chacun le fait régulièrement. Je pense pour ce soir, on ne va pas aller plus loin parce que on voulait saisir l'occasion. On est le 3 de l'Hijja à peu près. Je n'ai pas la date islamique en tête. Le 4, barakallah, le 4 de l'Hijja. Il est important de prendre conscience de la décade que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est un moment important. Autant, subhanallah, on insiste très souvent sur le mois de Ramadan. Autant qu'on insiste sur le mois béni de Ramadan, on parle des actions accomplies durant ce mois, les vertus. Mais malheureusement, lorsque la première décade du mois de l'Hijj arrive, on se focalise essentiellement sur le pèlerinage, pour ceux qui vont au pèlerinage. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? Ou alors on se focalise sur le udhiya, ce qu'on appelle sur le qurbani, le sacrifice, d'accord? Mais là aussi, c'est pas tout le monde qui fait le sacrifice, c'est celui qui a les moyens. Et si je ne vais pas au hajj, ou alors je ne fais pas le sacrifice, ben pour moi, c'est des joies normales, ben on laisse les joies passer. Grosse erreur de parcours. Parce que autant qu'Allah Azza wa Jal a honoré cette umma, autant Allah a comblé cette communauté en lui accordant le mois béni de Ramadan, autant Allah nous a aimé, Allah nous aime et nous comble de bienfaits en nous accordant la première décade du mois de Dhul-Hijjah. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, hadith connu, hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wa salam dit, ma min ayyam, il n'y a pas un jour. Donc le prophète dit, ma min ayyam, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un moment de l'année. C'est-à-dire que ce qu'il va annoncer là, ce qu'il va annoncer, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas un moment, un jour de l'année où al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Il n'y a pas un moment de l'année où les bonnes actions sont aussi aimées, aussi appréciées par Allah que durant ces jours, c'est-à-dire durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, yani ayyamul ashr, c'est-à-dire durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme qu'Allah Azza wa Jalla accorde à cette umma, la possibilité de faire des actions qui seront encore plus aimées, qui auront encore plus de valeur pour Allah Azza wa Jalla. En commentaire, les muhaddithines expliquent, en commentant ce hadith et tous les autres textes qui vont de ce sens, il dit que le croyant, surtout notre époque, ça c'est quelqu'un de contemporain qui écrit et donc ça nous intéresse encore plus, il dit de nos jours, les cœurs sont devenus paresseux, les cœurs sont alourdis, les cœurs avancent au ralenti. On n'a plus cette connexion, ce contact avec Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que le cœur est tellement attaché au bien de ce monde Le cœur est tellement attaché aux shahawat, aux pulsions, on a tellement l'habitude d'écouter notre cœur, notre nafs, tout ce qu'on a envie de faire, on fait, ce qu'on a envie de manger, on mange, ce qu'on a envie d'écouter, on écoute, ce qu'on a envie de regarder, Wallahu musta'an, on regarde, ce qui fait que le nafs se renforce jour après jour, il devient fort, et c'est lui qui dirige l'homme, et on a du mal, de ce fait, à être patient face au péché. Et ça, ça doit être la première qualité du mu'min, du muttaqi. Face au péché, il doit être capable de dire quoi? De dire non, barakallahu fik. On appelle ça as-sabru anil muharramat. Faire preuve de patience face au péché. Il doit être, et le fait qu'il n'ait plus ses qualités, deuxième conséquence, il a du mal à faire preuve de patience dans l'accomplissement des bonnes actions. Ce qu'on appelle as-sabru ala ta'a. De venir à la salat al-Isha, de se lever 5h30 pour la salat al-Fajr. Quand on se réveille 5h15, on se dit, ah non, là, le corps, il ne donne pas, là. Je ne suis pas en forme, là, je vais redormir un petit peu. Ça, c'est conséquence des péchés, conséquence du cœur qui n'a pas de relation, de connexion avec Allah, un cœur qui est rempli de passion, de pulsions et de hubbu dunya, ce qui fait qu'on n'a plus le commande sur nous-mêmes. C'est que face aux bonnes œuvres, on n'arrive pas à répondre présent. Et également, dans les moments de difficulté, et ça c'est une autre étape, on n'arrive pas à se montrer patient dans les moments de difficulté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de connexion avec Allah. Et que le cœur est connecté complètement avec les biens de ce monde, et le cœur est habitué à se pencher vers les shahawats, vers les pulsions, vers tout ce qui est haram. Donc par rapport à ça, l'être humain n'avance plus. Et ça c'est extrêmement grave. Mais malgré cet éloignement du dîn qui est le nôtre, Allah Azza wa Jal, s'il a, subhanallah, il a accordé de telles périodes à la Ummah, certainement, c'est qu'Allah, sans le moindre doute, Allah Azza wa Jal savait qu'à une époque, il y aurait des gens qui auront du mal à avancer dans la religion. Mais ces moments qu'Allah nous accorde là, ça nous permet de nous débloquer d'un coup. Comme si qu'on peut se décrasser, on peut se bouger et avancer. Comme le mois de Ramadan nous permet, subhanallah, de faire un sacré pas vers Allah, vers son contentement, vers le Jannah, et s'éloigner de l'enfer, ben, la première des quatre de Dhul-Hijjah, ça fait partie de ces moments très forts du calendrier islamique où Allah Azza wa Jal aime les bonnes actions et Allah rétribue le croyant qui va se dévouer dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Dans Surat al-Fajr, lorsqu'il est cité, Wal-Fajri, Wal-Layalin Ashr, والشفعي والوتر hein, ces versets sont, on ne va pas rentrer dans les détails, les Mufassirin rahimahumullah expliquent qu'on parle explicitement de la première des quatre de Dhul-Hijjah. Ces trois termes, Fajr, Layalin Ashr, Shaf' et Watr, ces trois termes désignent trois moments de la décade de Dhul-Hijjah, de la première décade de Dhul-Hijjah, entre autres le jour d'Arafat et entre autres le jour de Yom al-Nahr, hein, c'est-à-dire le dixième de Dhul-Hijjah. Et ce sont des jours où les bonnes actions sont les plus appréciées par Allah Azza wa Jal. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Parce que ça aussi, c'est un hadith basique. Ça aussi, c'est un hadith qu'on a très souvent entendu et qu'on entend, se rappelle tous les ans. Maintenant, comment est-ce que je dois réagir? Les muhadithines expliquent que quand un croyant entend ce genre de hadith, il doit faire le niyyah, l'intention de se dépasser dans les bonnes actions durant ces 10 jours. De la même façon qu'on prend cette initiative dans la dernière décade du Ramadan, barakallahu fik, de même qu'on prend l'initiative que quand on est le 18e, 19e Ramadan, là je suis prêt dans ma tête psychologiquement que à partir de la première nuit de la dernière décade, je vais mettre mon musalla prêt, je vais me réveiller, je vais faire qiyamul layl, je vais faire lecture Coran, dhikrullah, dua. Mashallah, on est motivé à fond et on le fait, alhamdulillah. De la même façon, le croyant se doit de faire le maximum d'efforts durant la première décade de Dhul-Hijjah. Et il était de l'habitude de grands savants, de grands parmi les pieux prédécesseurs comme Saïd ibn Jubayr rahimahullah et d'autres encore, qu'ils passaient l'intégralité des nuits de la première décade de Dhul-Hijjah dans la prière de la nuit. Comme ils le faisaient durant la dernière décade du mois de Ramadan. Parce qu'ils savaient qu'il y a énormément de récompenses à gagner et le simple fait de savoir que à chaque fois que je fais une bonne action, Allah sera encore plus satisfait de moi. Est-ce que ce n'est pas déjà là une consécration que de savoir qu'Allah, à ce moment-là, est content, Allah est satisfait de sa créature. N'est-ce pas là une satisfaction? N'est-ce pas là que c'est pas, c'est comme si on atteint l'objectif de notre création, c'est obtenir le contentement et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Donc, quelles sont les actions que je dois m'efforcer de faire, que je n'ai envie, que je n'ai pas envie, que je me dise que oui, il y a du travail, il y a telle chose, quelles que soient les circonstances, à un moment donné, il faut savoir se faire violence, il faut savoir se dépasser dans les bonnes œuvres. Parce que mes chers frères, autant les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ils vivaient une vie de perfection. Pour eux, ces moments-là, mashallah, ils les consacraient dans les bonnes œuvres. Mais on pourrait presque dire qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Tellement ils étaient au top sur le plan spirituel. Mais nous, on en a grandement besoin. Parce que notre cœur est tellement sale. On est tellement éloigné d'Allah. Il y a tellement de manquements de notre vie. Il y a tellement d'hypocrisie de nos actions. Il y a tellement d'ostentation, de manque de sincérité. C'est-à-dire, notre situation, notre bilan spirituel est tellement mauvais. On est tellement éloigné d'Allah que si l'ange de la mort prenait notre âme maintenant et que la pesée des actions avait lieu là, tout de suite là, Allah seul sait combien parmi nous aurait plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Si le paradis était à la sortie de ce quartier et que la balance était ici, Allah seul connaît combien entrerait dans le Jannah et combien irait directement dans le Jahannam, qu'Allah nous en préserve. Donc, vu notre éloignement du dîn, comment on a du mal, et on est conscient qu'on a du mal à pratiquer correctement la religion, on ne peut pas se permettre de laisser défiler ces jours-là sans donner le haq, sans donner le droit à cette décade de l'Hijjah. Donc, les savants disent, la première chose que le musulman doit s'efforcer de faire, c'est de jeûner l'intégralité de cette décade. Bien sûr, mis à part le dixième qui est le jour de Eid al-Adha. C'est-à-dire depuis le premier de l'Hijjah jusqu'au jour de Arafat inclus, essayer de jeûner. Bien sûr, nous connaissons les vertus du jeûne le jour de Arafat, on va revenir dessus dans un instant, mais il était de l'habitude de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, le fils du deuxième calife, entre autres, ainsi que Mujahid. Qui était Mujahid? C'était le professeur de Ibn Kathir. C'est pas des rigolos, hein? Le professeur d'Ibn Kathir, le plus grand mufassir, on pourrait dire, de l'histoire, Mujahid, ainsi que Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, et beaucoup, beaucoup de savants, ils avaient cette habitude de jeûner les 9 jours de Dhul-Hijjah. Parce que c'est le moment où Allah apprécie le plus les actions de l'homme. Donc, on doit essayer de meubler notre temps au mieux avec les bonnes œuvres. Et l'action qui prend l'intégralité, on va dire, 3/4 de notre temps, c'est le saum. À partir du moment où tu fais le niya jusqu'à la rupture du jeûne, chaque minute, chaque seconde, tu es en ibadah, oui ou non? Chaque moment, tu passes dans le saum. Alors que la prière, tu commences dans un quart d'heure, tu as fini ta salah. Le tilawat et le Quran, tu vas commencer à lire, mais tu vas lire une heure et demie, après tu t'arrêtes, et ainsi de suite. Le saum, ça commence depuis le sadiq jusqu'au ghurub al-shams, où tu es en permanence dans le ta'a, dans l'adoration d'Allah. Donc c'est vraiment l'action à accomplir durant cette première décade de Dhul-Hijjah. Tout en sachant que quand quelqu'un est en état de jeûne en général, il se contrôle, il ne dit pas n'importe quoi. Même si ce n'est pas dans le mois de Ramadan. Il contrôle ses paroles, il contrôle son regard, parce qu'il sait qu'il est en train de vouer un culte à Allah, donc il respecte cet engagement. Donc c'est vraiment l'action à ne pas rater durant cette première décade de Dhul-Hijjah. Et ensuite, il y a bien sûr le jeûne du jour de Arafat. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit: "Yawm Arafat ihtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da." Le prophète dit que par le biais du jeûne de Arafat, j'ai espoir qu'Allah pardonne les péchés de l'année écoulée et de l'année qui va venir. Ça, c'est le karam d'Allah azza wa jal. N'essayez pas de comprendre, attendez, comment est-ce possible que ça, c'est Allah qui est karim. De même Allah est capable de nous accorder Laylatul Qadri khayrun min alf shahr, qu'une nuit d'adoration, la nuit du destin, vaut mieux que 1000 mois de ibada. On se dit que mais c'est des chiffres incompréhensibles, on n'arrive pas à calculer ça. Comment est-ce qu'on peut concevoir? Mais ça, c'est le karam d'Allah. De la même façon, Allah est capable de nous accorder un tel maghfirah. Dites-moi, est-ce que nous n'avons pas grandement besoin qu'Allah nous pardonne? Allahu Akbar. Si chacun devait faire un bilan de ses bonnes actions, de ses mauvaises actions, et faire un bilan de la qualité de nos bonnes actions, on se rendrait compte que nos bonnes actions, elles sont vides. Elles sonnent creux. Il n'y a pas l'ikhlas, la sincérité, il n'y a pas la ferveur, il n'y a pas la concentration, il n'y a pas la dévotion des actions des pieux prédécesseurs et des sahabas. On a tellement besoin qu'Allah nous pardonne nos péchés, mais nos manquements également dans les bonnes actions, et aussi les manquements dans l'accomplissement des bonnes œuvres, comment c'est fait, combien de fois nos salats on les fait comme ça, sans réfléchir qu'on est devant Allah. On fait, on pense à mille et une choses, sauf qu'on est devant Allah. Ça, c'est une réalité. Et qu'Allah nous pardonne. Donc, on a grandement besoin. C'est la sonnette d'alarme qu'il faut tirer là. Et on a la possibilité d'avoir le pardon d'Allah Azza wa Jal en jeûnant le jour d'Arafat. Donc, ça, mes chers frères, personne, sous aucun prétexte, ne doit rater le jeûne en ce jour. Même si je travaille de 6h du matin jusqu'à 18h, je vais mourir sur le chantier s'il le faut. Je vais tomber sans connaissance s'il le faut. Mais on ne rate pas le jeûne du Arafat. Parce qu'on est en danger. On est en danger. Si demain, Malik al-Maut prend mon âme, je remonte vers les cieux, vers Allah Azza wa Jal, avec autant de péchés, qu'est-ce que je vais devenir le jour de Qiyama? Est-ce que vous pensez qu'on a notre place sous l'ombre du trône d'Allah, avec notre pratique de la religion? Allah musta'an. Donc vraiment, c'est un devoir, c'est une question de survie pour notre akhira que de jeûner en ce jour de Arafat. Et si on peut, aujourd'hui c'était lundi, hein, ça aurait été encore meilleur de jeûner un jour qui est sunnah en plus de la dernière des quatre. Donc on essaie de jeûner demain, inshallah. Si on n'a pas pu jeûner aujourd'hui, on fait tous l'intention de jeûner mardi, mercredi, jeudi, inshallah, et vendredi. Et samedi, oui, d'accord. Et samedi, d'accord, si vous voulez, samedi également. On fait le niya, parce que le Eid, c'est dimanche. On fait le niya de jeûner, inshallah. Maintenant, si on sent un peu de difficulté, on ne loupe pas jeudi, parce que c'est un jour qui est sunnah de jeûner, et le jour de Arafat. Mais si vraiment on veut, en fait là c'est le moment de montrer, et Allah il connaît, de faire preuve de bonne volonté. Qu'Allah, Rabbul Izzah, voit que ce serviteur-là est motivé, qu'il est en train de faire des actions, qu'il ne s'en sort pas. Hein. Toute l'année il ne s'en sort pas avec ses péchés, il a du mal, il se débat, il patauge dans les péchés. Mais là, il est en train de se débattre pour essayer de faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est 9 jours de carême consécutifs qu'il va faire. Vous pensez qu'Allah ne va pas, entre guillemets, nous tendre la main? Pensez pas qu'Allah va nous accepter quand le prophète dit que celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait 2 pas vers lui. Celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant. Celui qui, subhanallah, on essaie de se rapprocher d'Allah, Allah Azza wa Jal voit ma sincérité, mes efforts, Allah me ramène vers lui. Donc celui qui fait des efforts, qui essaie de jeûner, de faire le maximum de bonnes œuvres, inshallah, il trouvera l'acceptation et le qaboul de la part d'Allah Azza wa Jal. Les savants disent également, essayez de faire le maximum de salat nafil également. Donc, si on peut passer, allez, si on ne pourra pas peut-être passer les nuits en ibadah, mais ne serait-ce fait tahajjud en ce moment. C'est vrai que là, c'est costaud là. Là, c'est, on peut prier jusqu'à 4h48 ou 47. Ça devient de plus en plus tôt. C'est pas comme Ramadan ou Mashallah. Donc, là, on essaie de se réveiller à 4h du matin. 4h du matin, je fais 2 unités de prière, ou 4, ou 6, et je demande doua. Je demande doua, pardon, tauba et taufir pour accomplir de bonnes œuvres, des bonnes actions. Et parmi les actions qui sont mashrou'a, également durant cette période, le dhikr, faire beaucoup de dhikrullah. Et le dhikr le plus important à faire durant ces périodes, quand le prophète dit, on reprend le hadith, mais cette fois-ci une version d'Imam Ahmed, « Ma min ayyamin a'zamu indallah » Ça, c'est une autre version qui est aussi magnifique. Il n'y a pas une période de l'année qui a autant d'importance pour Allah Azza wa Jal. Et wala ahabbu ilayhi al-amalu fihinna, et où les actions sont aussi aimées par Allah durant cette période, min hadhihi al-ayyam al-ash, que cette décade, ces 10 jours. Et là, le prophète me dit, qu'est-ce qu'il faut faire comme bonne action? Fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Ô musulmans, durant cette période, efforcez-vous de faire beaucoup de tahlil, c'est-à-dire de dire la ilaha illallah, de faire beaucoup de takbir, de dire Allahu Akbar en quantité, et beaucoup de tahmid, de lire. Donc c'est lire le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et les sunnah, bien sûr, on sait qu'il est sunnah de lire le takbir après les salats, depuis le Fajr à Arafat jusqu'au Asr du 13e. Oui! Ça, c'est le takbir qui est muqayyad. Le takbir qui est mutlaq, qui est général, c'est depuis le premier de l'Hijjah jusqu'au 10e inclus, de lire le maximum de fois possible le takbir. On est dans les embouteillages, on lit takbir. Pas besoin de dire fort, on lit point nous. On est dans le bus, on lit takbir. On est en train de marcher, on lit takbir. On sort de la masjid, on monte les escaliers, on descend. On essaie de lire au maximum de fois le takbir, parce que c'est une des actions les plus aimées par Allah durant cette décade, de cette première décade du mois de Dhul-Hijjah. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Donc déjà, je fais l'intention du plus simple au plus, en guillemets, plus compliqué, que j'essaie de lire le maximum de takbir tous les jours. Et la formule c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa Walillahi alhamd. On a tahlil, on a takbir et on a tahmid, Walillahi alhamd. On a les trois dhikrs qui sont regroupés dans ce dhikr. Et il était de l'habitude, si je le nom des sahaba sous les yeux, oui, il était l'habitude de Ibn Umar, radiallahu anhuma, et Abu Huraira, radiallahu anhum, ajma'in, que durant la première décade, lorsqu'il sortait, il passait dans les souks, dans le bazar, dans le marché, il lisait le takbir très fort, et les gens répétaient. Bon, on va pas faire ça à Carrefour Koura, ils vont appeler les GPN, GGN, et je sais pas quoi ça. D'accord, ils disent, c'est y est, on les a trouvés, les gars d'Irak, ils sont à Carrefour Koura. Non, on va pas lire le takbir fort, mais on essaie de le lire, au maximum. Petite parenthèse, excusez-moi, on était en pleine spiritualité. Il y avait une vidéo sur Facebook cet après-midi, ça m'a scotché. C'est une équipe, je sais pas, c'était aux Émirats Arabes Unis ou non, c'est au Koweït, ça, le football, d'accord. C'est à l'entraînement, les joueurs s'entraînaient et tout le COP, ils regardent cette vidéo, tout le COP, le stade entier, ils étaient avec Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, c'était comme le hal. Bon, c'était Firel et Mahal, c'est-à-dire c'était pas vraiment l'endroit. Là, on est dans un endroit de rafla, d'insouciance, mais Yanni, ou plutôt qu'ils chantent, c'est Ayam Mutashriq. Donc, ils vivent la première décade de l'Hijjah. Donc, la première chose, on fait l'intention de lire le maximum de fois. Moi, je conseillerais même, quand on est dans la voiture, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On écoute, j'allais dire Radio Freedom, j'ai pas dit, on écoute la radio, on écoute les dernières nouvelles, ou même on écoute un nashid ou autre chose. N'écoutez rien. Vous êtes dans votre voiture, en général, mashallah, ici, il y a des embouteillages comme il le faut, il y a le temps, donc n'écoutez pas la radio, rien du tout. Lisez takbir, lisez à haute voix, fermez les vitres, ou alors, vous lisez à une voix audible, et ne vous arrêtez pas. Et conseillez les gens de la maison aussi, madame, les enfants et tout, de lire le maximum de fois takbir, parce que ça, c'est une action qu'Allah aime durant la première décade de Dhul-Hijjah. Deuxième degré, d'accord, j'essaie de faire tahajjud, des cinq salats, ça, il n'y a pas besoin de préciser, bien sûr, le tahajjud, inshallah. Et troisièmement, jeûner, Inch'Allah, on essaie de jeûner le jour d'Arafat. Et le top, l'idéal, c'est dès demain, on commence à jeûner jusqu'au jour d'Arafat, inclus, qu'Allah nous accepte, et que durant cette première décade, qu'Allah Rabbul Izza pardonne nos péchés, accepte nos bonnes actions, et nous donne la possibilité de nous rapprocher de lui, jour après jour. Ma tawfiq illa billah,